30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, 30 minutes chrono de ce samedi 14 décembre, un petit sommaire rapide. Alors, la chronique de la Babale Carrée reviendra sur les pratiques douteuses dans le monde de l'Ovalie, qui consiste en pleine saison à recruter des joueurs appartenant à des équipes rivales pour l'année suivante. À la lumière du feuilleton Cocotte, brillant demi de mêlée sud-africain du champion de France, le Castres Olympique, 30 minutes parlera des pré-contrats, des us et coutumes chez les riches présidents du club du top 14. Ce sera un peu Cocotte Minute, si vous voulez. Pour faire tomber la pression, rien de mieux que d'ouvrir une soupape. L'invité. En fait, j'ai pas un invité, j'en ai deux. Alors, bonsoir d'abord.
Bonsoir. Bah,
nous sommes en présence de deux personnes. Alors, 30 minutes recevra pour inviter Xavier Divoire, représentant le MUCAR Aviron, et
Gérard Rétor.
Merci, parce que j'avais pas votre nom écrit. Hein. C'est pour ça que je me permets de vous demander de vous présenter vous-même. Alors, l'occasion de s'intéresser à ce sport qui apparaît sur les écrans, surtout pendant les Jeux Olympiques, hein, vous êtes d'accord, hein, c'est surtout là qu'on vous voit, rendu célèbre aussi par la fameuse race entre les universités britanniques d'Oxford et de Cambridge, sur la rivière Tamise. Ce sport reste quand même méconnu du grand public. Vous êtes d'accord avec moi, on en aura l'occasion d'en parler. Alors, 30 minutes chrono essaiera de décrypter avec nos invités. On parlera un peu d'histoire de ce sport. Et puis, bien sûr, surtout, on va parler du MUC Aviron, hein, et de vos activités. On verra ça tout à l'heure. Enfin, quelques rapides résultats de l'agglomération Montpellier-Rennes. Voilà, et bien écoutez, on va partir maintenant sur la chronique de la Babale Carrée dans quelques instants. Chronique de la Babale Carrée. Alors j'espère que vous avez reconnu le haka. Alors les Néo-Zélandais, quoi de mieux pour représenter le rugby, champion du monde. Mais c'est aussi un peuple de rameurs, je crois. Hein.
Exactement.
On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors Cocotte, avec un nom pareil, il ne faut pas s'étonner qu'il monte en pression et fait exploser notre rationalité française. Avant de commencer cette désormais rituelle chronique de la Babale Carrée, qui essaye tous les samedis en début de soirée de décaper le sport professionnel et ses dérives, je voudrais remercier Maxime Rollin et Arnaud Requena, qui sont journalistes pour le quotidien L'Équipe, pour un article qui est paru dans le mercredi 11 novembre, traitant donc de l'affaire Cocotte et des pré-contrats. D'abord, il s'agit d'un joueur exceptionnel quand même, qui a permis à la surprise générale, grâce à son génie de la passe et à son talent de buteur, de faire du Castres Olympique le dernier champion de France, battant en finale le champion d'Europe en titre, le grand Toulon de Mayol. Justement, Toulon s'intéresse à ce joueur et lui a fait signer un pré-contrat pour la saison prochaine. Oui, mais à l'heure. C'est quoi un pré-contrat? Selon la loi, il vaut lettre d'embauche. Donc c'est du sérieux, c'est du fiable, car il stipule l'engagement d'un employeur et d'un employé pour un salaire et d'autres avantages éventuellement marqués lors de la signature. Si vous voulez une grosse poignée de main, avec une tape dans le dos, mais juridique quand même. Ensuite, le pré-contrat, pour qu'il devienne effectivement contrat, doit passer par un certain nombre de critères, genre une visite médicale pour le salarié et aptitude du club à effectivement disputer un championnat professionnel, entre autres. Enfin, si le joueur se retire, il doit généralement dédommager le club qui lui a proposé le pré-contrat en lui versant une somme, en gros une année de salaire proposée. Souvent, bien sûr, le joueur ne paie pas, mais c'est le club qui le retient ou qui le fait signer malgré le pré-contrat qui allonge la monnaie. Vous suivez ? Et revenons à notre Cocotte, roi du volte-face et de l'embrouille pour faire chauffer sa marmite. Or, les faits sont indéniables. Notre Sud-Africain, lointain héritier de l'esprit de Mandela, a signé un pré-contrat avec Toulon pour 3 années et une clause de résiliation d'environ 400 000 euros. Or certes, ce n'est pas Messi, Ronaldo, Ribéry ou Zlatan qui veut, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, pour le rugby, 400 000 euros, ce n'est pas tout à fait rien, même pour le budget d'un club du top 14. Rory a déjà voulu partir l'année passée pour le Racing Métro parisien. Il avait dit qu'il voulait quitter Castres et la Cambrousse pour une ville lumière plus saillante à son aura. Sauf que les dirigeants tarnés n'avaient rien promis et surtout pas un bond de sortie comme le funambule de la mêlée le laissait entendre. Le 1er juin dernier, avec l'apothéose du titre de champion de France, Cocotte, qui avait laissé mariner quelques clubs, dont déjà Toulon, décide de rester fidèle à Castres et à sa revalorisation salariale. Happy end donc, sauf que début octobre, le fidèle du Castres Olympique s'est pré-engagé à nouveau avec le Toulon de Mourad Boudjelal, qui s'y connaît en bande dessinée. Mais la dernière, à peine sortie dans la presse, laisse rêveur sur les mœurs et les coutumes des starlettes de l'Ovalie qui vont finir définitivement à n'avoir plus rien à envouer à leurs confrères les manchots. Pierre-Yves Revol, le président du club et de la holding majoritaire au Castres Olympique, veut faire mousser le Tarn du rugby, et surtout par la bande son entreprise pharmaceutique. Il a les moyens, il a même de très gros moyens. Alors, il va proposer maintenant à Cocotte, qui va peut-être changer d'avis, on ne sait pas, 600 000 euros sur 3 ans. Tous les ans, 600 000 euros. Et il met ça dans la balance pour le partant. Alors, le partant va-t-il rester? Et puis en plus, le président du Castres Olympique, il recrute en Auvergne, chez Michelin, vous savez. Alors, la star de notre championnat, Sivi Vatou, va signer normalement l'an prochain, à Castres. Enfin, c'est encore un pré-contrat, donc c'est pas certain. Pour une multinationale comme celle de feu Pierre Fabre, 600 000 euros, bah, c'est de l'ordre du pourboire, comme le souligne aimablement Boudjelal. Donc voilà, les joueurs signent, mais peuvent ne pas honorer. Les clubs peuvent vendre, puis racheter. La babale ovale peut devenir vraiment carrée. Les tribunaux devront, à l'avenir, se pencher sur le cas de plus en plus litigieux de nos cocottes. Toutes les cocottes ont un bel avenir, si vous voulez, dans l'art de faire monter la mayonnaise pour leurs intérêts et leurs finances personnelles. Alors, le rugby est un sport professionnel et moderne maintenant. Fini le bricolage, place à la surenchère et à la loi du plus riche. Quid de l'esprit de ce sport? L'esprit de club, vous savez, la fraternité, le respect des couleurs. Ne nous faites plus rire avec vos valeurs, messieurs de l'Ovalie. L'Ovalie est carré, vous êtes semblables aux autres sports, vous êtes un spectacle.
Pagaie sur cette vieille loi, pagaie, t'arrivera nulle part. Errons là-haut guetteur. Vois-tu ailleurs, bout de bois, beau caoutchouc, flotte-moi plus loin que chez nous, baigne-moi, tu m'as menti. Ailleurs, c'est comme ici. Ram, ram, rameur, ramer. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Toi et Ram, je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, Langeais, à peine en boise. Amour, cordon, ficelle serrée.
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors aujourd'hui, ce sera les invités. Hein, c'est plus un invité, c'est deux. Alors nous avons donc Xavier d'Ivoire et je vais vous redemander votre nom parce que je ne l'ai pas retenu par cœur.
Et Gérard Etor.
Voilà, donc Gérard et Xavier. Vous êtes tous les deux là pour représenter le MUC Aviron. Là, je ne me trompe pas.
Non.
Pas bon, d'accord. C'est bon. Alors le MUC Aviron, on va en parler longuement, mais je vais simplement vous dire une petite remarque sur votre sport qui n'est pas très médiatisé, mais qui de temps en temps quand même, on les voit. Le premier champion des champions en 1946... Vous savez, le champion des champions, le journal d'équipe des CERN tous les ans, oui. Le titre de, c'était Teddy Riner, je crois, l'an dernier, enfin, une grande star française qui coiffe tous les sports. Eh bien, le premier champion des champions, c'était un rameur. Ah. Et c'était en 1946, il s'appelait Jean Seferiade. C'est lui qui avait gagné sur la Tamise, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de championnat du monde organisé, mais il y avait une course sur la Tamise qui valait... le titre de championnat du monde, et ben il avait battu le célèbre américain, moi je le connaissais pas, peut-être que vous le connaissez, Jack Kelly Jr., qui était un des grands rameurs de l'époque, et ce petit français avait gagné donc la course en solitaire, c'est-à-dire tout seul sur son bateau. On dit comment
En skiff.
En skiff, voilà. Et ben donc c'était le premier champion des champions. Donc d'accord. Votre sport était déjà à l'honneur en 1946. Alors on va parler d'un peu des pratiques, alors on commence par le MUC, vous parlez quand vous voulez, l'un comme l'autre, hein, peu importe. Le MUC, alors le MUC c'est situé où d'abord? Où est-ce qu'on rame à Montpellier?
Où est-ce qu'on rame à Montpellier? En fait, on ne rame pas à Montpellier parce qu'il n'y a pas de plan d'eau adéquat. On rame sur le canal du Rhône à 7 qui longe le littoral. Et en l'occurrence, la base du MUC Aviron se trouve à Palavas-les-Flots, au niveau des cabanes de l'Arnel.
D'accord, donc c'est très facile à trouver. Et puis si on veut vous joindre, le plus simple, on tape sur Internet.
Sur Internet,
site,
sur Internet. Téléphone. Voilà, sur Internet, l'adresse du club, c'est montpellier-aviron.com.
Voilà, oui, on a tout de suite les renseignements, on a les prix. Alors, on a aussi un petit peu cette impression que votre sport est un sport de riche. Alors, c'est peut-être pas le cas. Alors, vous payez pas 600 000 euros les rameurs, j'espère.
Alors, d'abord, les rameurs ne sont pas payés 600 000 euros. J'en ai pour preuve une petite anecdote. Il y a quelques années, on a accueilli au MUC Aviron un rameur niveau national, Benjamin Lang, qui était étudiant à Montpellier, mais qui était licencié au club de Bordeaux. Et il venait s'entraîner tous les jours à notre base d'aviron sur le canal. Et il allait faire des compétitions de niveau national un peu partout en France pour pouvoir participer au championnat du monde. Il a d'ailleurs été vice-champion du monde. Mais le plus amusant, c'est que pour se trimballer son bateau, qui fait quand même 8 mètres de long, un skiff, c'est un bateau individuel, mais qui fait 8 mètres de long et 40 cm ou 50 cm de large maximum, eh ben, il mettait ça sur le toit de sa Clio.
Ah d'accord, et c'est comme une lame un peu, hein. C'est vraiment très très fin, très long, très fin, et sur le toit de sa Clio.
Voilà, ce qui veut dire qu'il n'était pas grassement payé. Quoi.
Voilà. En effet, et donc votre club, on peut le joindre, bon, le plus simple c'est d'aller sur le site, comme ça vous avez les numéros de téléphone, etc. Et quand je dis que ce n'est pas un sport de riche, parce que je crois qu'une cotisation à l'année, ça représente à peu près...
C'est à peu près 250 euros.
250 euros pour un adulte et 170 euros pour les moins de 18 ans.
Bah, c'est moins cher qu'un club de gym.
Exactement, exactement. Avec un équipement vraiment minime, puisqu'il faut un short, un t-shirt, une casquette, éventuellement un collant en hiver, et on peut même ramer pieds nus. Donc
c'est pas donc du tout, on démystifie ça, hein, c'est pas un sport pour les riches. Alors c'est quand même lié au phénomène étudiant, à cause peut-être de la fameuse et célèbre course anglaise The Race, qui oppose tous les ans, depuis 1846, je crois, j'ai regardé ça, l'université d'Oxford à celle de Cambridge, les bleus ciel contre les bleus marines. Alors ça, c'est un événement extraordinaire, puisque quand en 2004, cette course a été retransmise à la télévision, on a dénombré environ 500 millions de téléspectateurs.
Ah, ça, je ne connaissais pas ce chiffre. Ouais, effectivement, c'est impressionnant. On n'est pas encore au niveau du Tour de France, mais...
C'était quand même extraordinaire. Ouais. Alors, c'est la grande tradition qui fait connaître aussi un peu ce sport. Et puis donc, c'est cette tradition universitaire. Vous êtes d'accord avec moi?
Tout à fait. Et je pense qu'en termes d'audience, c'est vrai que c'est un sport très esthétique à regarder. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ça aussi qui... C'est beau à regarder, c'est un...
C'est un peu un combat, une lutte entre les bateaux. Et puis en plus, il y a ces lignes qui sont tracées, qui nous permettent de voir la progression. Par curiosité, ça dure combien de temps? Quelle est la distance?
Alors, la distance, c'est 2000 mètres et ça se fait en 5, 6, 7 minutes. Quoi, hein.
Ça dépend du nombre de rameurs aussi, je suppose.
Ça dépend du type de bateau, effectivement. J'ai pas en tête le temps du 8 barré qui a lieu pour la race, mais je sais vite, que les 2000 mètres en ski, c'est de l'ordre de 6 minutes 15, quoi.
Oui, donc ça va vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer puisqu'on voit ces bateaux qui se dépassent les uns et l'autre. C'est un peu comme une course cycliste, un peu un sprint, hein. Il y a un côté sprint cycliste. Hein.
Ah, absolument, voilà. Absolument. Oui.
Et alors les bateaux, on part donc du skiff qui est tout seul jusqu'au 8. Ouais. Les Néo-Zélandais d'ailleurs sont très bons, je crois, je disais tout à l'heure, c'est un pop de rameur, mais ils sont très très bons en 8, hein, il me semble. Donc on part du petit bateau, on va jusqu'au grand. Maintenant, si quelqu'un qui serait complètement profane voulait s'initier, mais n'est pas sûr de vouloir aller chez vous à l'année, est-ce qu'il peut venir quand même vous voir?
Alors, je vais peut-être répondre, parce que moi, je suis au club depuis un an. Et c'est vrai que c'était un sport pour moi qui était assez difficile, très esthétique, qui m'intéressait. Et j'ai franchi le pas et je regrette de ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt, parce que on tombe dans une équipe qui nous entraîne progressivement. Et il n'y a pas de problème pour accéder et assez rapidement donc se retrouver complètement autonome.
Voilà. Donc on peut faire un essai chez vous? Vous avez organisé des choses comme ça?
Alors effectivement, on peut faire un essai. Les adultes, on les accueille en fait pour un essai en septembre et octobre seulement, parce que le club est animé par des encadrants bénévoles et on ne peut pas mobiliser des bénévoles toute l'année pour des essais, dans la mesure où, bien logiquement, il y a parmi ceux qui essaient, il y en a qui persistent pas, donc bien sûr, oui, ça fait beaucoup d'énergie dépensée.
Donc septembre-octobre, on peut aller voir un peu de quoi aller en retourner.
Exactement.
Le reste d'année, on peut s'engager, tout simplement.
Il suffit de prendre la licence. Ouais. Bon, on l'a dit, c'est pas très coûteux quand même.
Oui, voilà, à l'année. Oui.
Si quelqu'un vient en disant « j'ai envie de faire de l'aviron cette année », il prend la licence et on va le former en le prenant au niveau de base. Mais...
Et pour les jeunes, c'est à quel âge que ça démarre?
Alors, c'est une question de taille.
Bien sûr. Hein.
Il faut avoir entre 10 et 11 ans quoi, hein, pour démarrer.
Oui, pour pouvoir prendre place dans le bateau, je suppose.
Prendre place dans le bateau, et puis il y a une question aussi de gabarit et puis de force musculaire quand même.
Voilà, j'allais vous dire quelles sont les spécificités de ce sport au niveau purement physique. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce sport? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme morphologie ou...
Par exemple, voilà, pour reprendre un petit peu mon exemple en tant que jeune pratiquant, moi j'étais un petit peu, bon, je suis un petit peu, j'ai une carrure assez importante. Et
vous êtes un peu rugbyman, vous, hein?
De morphologie, voilà. Sans les cocottes. Et je pensais que ce n'était pas un sport pour moi. Et au contraire, on m'a bien expliqué que non, c'est possible, c'est accessible à tous. C'est pas un sport complètement physique, il faut pas oublier l'aspect loisir aussi, hein, et c'est plutôt un sport d'entraînement où effectivement avec une pratique régulière, on arrive à progresser. Et ça, c'est très important.
Donc, c'est pas la peine, n'est pas nécessaire non. d'être forcément très fort des bras, c'est pas non. forcément non, une obligation. Non, non, non. Il y a aussi des jambes qui travaillent beaucoup, je suppose.
Alors c'est un sport qui est complet, qui a le gros avantage de faire travailler aussi bien les jambes que le dos, que les bras. Et donc, il est recommandé même dans pas mal de situations médicales pour le dos.
Et on peut dire aussi, là aussi, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez bien entendu, on peut dire que c'est un sport à la fois individuel, mais très collectif, parce que comme vous êtes ensemble sur le même bateau, il faut synchroniser.
Exactement. Dès qu'on est sur un bateau collectif, donc à 2, 4 ou 8, c'est une histoire de synchronisation et ça devient un sport collectif.
Et il y a un esprit d'entraide, je suppose. S'il y en a un qui flanche un peu, il faut que l'autre
Absolument, on se soutient mutuellement quand on fait des... Gérard a fait une course il y a 15 jours.
Ouais. C'est vrai que c'est une expérience très intéressante. Bon, moi, je viens du milieu de la voile, donc où la notion d'équipage est très importante.
Très importante aussi, bien sûr.
Et je retrouve cet état d'esprit dans l'aviron. Et ce qui est difficile, ce qui est difficile et intéressant quand on est à 4, par exemple, pour prendre mon exemple de la dernière régate qu'on a fait au Cap d'Agde, à Agde, sur le fleuve Hérault. Bon, là, on était sur une longueur de 5500 mètres. Oui. Et on sent qu'effectivement, moi, c'était ma première régate, on a un petit peu des coups de mou, etc. On le ressent parce que quand on rame ensemble, on est quand même en cohérence, en cohésion. Et on sent à un moment donné la baisse de volume, oui. Ou quand au contraire on a des envies d'avancer. Donc c'est vraiment un travail et une ambiance vraiment très, très, très intéressante.
Très collective, très on peut collective, dire. Si vous voulez bien, on va se séparer pour une petite pause musicale. Et puis après, on revient pour discuter de ce sport qui donne envie, l'aviron et le MUC.
D'accord.
Le lancer du CD. Et bien voilà, on retourne avec nos invités du MUC, du MUC Aviron. Du MUC Aviron. Le MUC, c'est un omnisport, hein. Il y a beaucoup d'activités.
11 000 adhérents au MUC.
Oh là là, c'est énorme, hein, c'est énorme. J'ai reçu récemment d'ailleurs des collègues à vous, puisque j'ai eu la chance la semaine dernière d'avoir l'escrime, hein, le président du club de l'escrime. MUC Aviron, donc on a vu où c'était, on a parlé un peu de ce sport. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aviron, ça remonte... À la nuit des temps, on va dire.
Alors, l'aviron, oui, mais l'aviron en tant que pratique sportive, ça a un peu plus d'un siècle.
Ouais, c'est ça. Comme on disait, les premières courses entre Oxford et Cambridge, c'est en 1850, en gros, hein, par là. Et puis vraiment que ça devient une discipline olympique, je crois que c'est plutôt dans les début du siècle.
1904, je crois.
Oui, ouais, c'est ça, les deuxièmes Olympiades, ou le troisième Olympiade, pardon. Ouais. Troisième Olympiade. Ok, très bien. Ce sport qui a toujours été pratiqué donc dans des pays particuliers, il y a des nations qui sont vraiment des nations d'aviron.
Alors, la Grande-Bretagne, bien entendu. Il faut aussi citer l'Allemagne, où il y a beaucoup de clubs universitaires. C'est un sport très répandu en Allemagne. La France vient quand même derrière.
Les États-Unis aussi, peut-être ?
Les États-Unis, oui.
Mais
les États-Unis,
moins traditionnels.
Tradition anglo-saxonne.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais bon, les Italiens aussi ont des rameurs.
Et puis Néo-Zélande, Australie.
Bien sûr.
Australie. Donc en fait, tout ça pour vous dire que vous êtes un sport universel. C'est pratiqué.
C'est mondialement pratiqué.
Voilà, c'est mondialement pratiqué. Donc on se fait des idées des fois sur certains sports. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Hein. Donc c'est un sport qui est très pratiqué dans le monde. Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans ce sport qu'on ne pourrait le croire.
Et je le répète peut-être, très accessible.
Voilà, très accessible.
Parce qu'il y a une progression, et notamment au MUC Aviron, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, il y a une notion de bénévolat. Donc effectivement, de par principe, on essaye d'encadrer au maximum dans les premières phases. Et l'idée, c'est qu'on devienne tous un petit peu autonomes, le plus rapidement possible. Et avec un calendrier un petit peu assidu, bon, on vient à peu près toutes les semaines, et ben on arrive à avoir cette autonomie. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on est encadré, on a les bons gestes au début. Et ce qui est remarquable au MUC Aviron, c'est quand il y a une bande de bénévoles encadrants qui nous encadrent vraiment et dans la bonne humeur. Quoi.
Vous n'avez pas de courbisse vous
non, pas encore.
Non, pas encore.
Mais on a un SAM très, très, très compétent et qui nous entraîne tous les 15 jours. Et ça, c'est un entraîneur fédéral, c'est remarquable.
Eh bien, écoutez, merci d'être venus d'abord, tous les deux. Et puis, j'espère que vous avez pu dire ce que vous vouliez dire sur votre sport. On va se quitter... avec mes invités, mais pas encore tout à fait 30 minutes chrono, j'ai encore quelques mots à rajouter. J'espère que les auditeurs ont bien apprécié et seront tentés par venir voir de plus près ce sport. Voilà. Je vous en prie.
On est sur un site remarquable. Hein. Notre bief s'étend entre effectivement Villeneuve-lès-Maguelone et Palavas. Des fois, on va jusqu'aux Arresquiers.
Aux Arresquiers, oui.
Et on est vraiment dans un monde complètement...
formidable. C'est en plein air et un milieu sauvage.
C'est en plus, c'est bon pour la santé et c'est beau à regarder.
Voilà. Absolument. Voilà. Absolument.
Ben, merci d'être venu.
Merci.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors, j'avais reçu il y a quelque temps, vous vous rappelez, quelqu'un qui représentait le tambourin. Le tambourin, c'est un sport qui est très, très développé dans notre région. Et il m'avait fait part que, pour la première fois, il y aurait un championnat du monde de tambourin indoor. Il y avait déjà eu des championnats du monde outdoor, à l'extérieur. Et bien, indoor. Et bien, ce premier championnat a eu lieu. Donc, c'était en Italie. Et bien, les finales, les Français sont arrivés en finale, féminin comme masculin d'ailleurs. Mais ils ont été battus, l'une et l'autre équipe, par les Italiens. Les Italiens sont les meilleurs au tambourin depuis très, très, très longtemps. Mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors, c'est ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le championnat de l'Hérault était particulièrement bien représenté, que ce soit chez les masculins ou les féminins. Les joueuses et les joueurs se sont vraiment bien, bien, bien comportés. Et puis, c'est un sport qui commence à se mondialiser aussi, le tambourin, puisque les demi-finales ont opposé, par exemple, la France au Brésil. Donc, vous voyez, on a des choses qu'on ne pourrait pas s'imaginer sur ce sport de tambourin qui gagne de la place dans le sud de la France essentiellement, mais qui commence à grignoter un peu partout. C'est un sport très spectaculaire. Vous avez eu l'occasion, vous, de regarder un match de tambourin déjà ?
J'ai assisté, je suis passé une fois, c'était aux Arceaux, il y avait des joueurs de tambourin qui faisaient une démonstration il y a quelques années.
Alors vous avez vu à quel point ça va vite, hein. C'est un sport très spectaculaire, donc qui mérite qu'on en parle un peu, alors surtout dans une émission comme 30 minutes chrono qui essaye de faire découvrir d'autres sports que nos valeureux handballeurs qui sont en prise au prud'homme actuellement. Vous savez, c'est compliqué, il y a des paris, c'est un peu compliqué les handball. Les footballeurs, ben, on a changé d'entraîneur parce que les entraîneurs, ils ont toujours tort, vous savez, les entraîneurs, je ne sais pas, c'est eux qui marquent des buts, je ne suis pas sûr. Enfin bon, ils ont toujours tort, on les vire. Et puis nos rugbyman, ça va à peu près, mais enfin, ce n'est pas tout à fait ça. On va parler juste un petit résultat. Enfin, non, plutôt, on va vous donner quelques informations pour, si vous voulez vous déplacer pour aller voir d'autres sports. Alors, je vous conseille toujours le basket féminin. Basket féminin à Montpellier, c'est une superbe équipe qui est deuxième actuellement du championnat de France. Et elle se déplace à Villeneuve-d'Ascq. Elles sont troisième, pardon. Elles se déplacent à Villeneuve-d'Ascq en coupe. Et le coup d'envoi, c'est prévu dimanche à 13h30 en Villeneuve-d'Ascq, pas à côté. Mais enfin, au moins, on se renseignera du résultat. Water polo, ça aussi, c'est un super sport à Montpellier. Eh bien, ils sont leaders invaincus, nos Montpelliérains, là, qui vont dans la grande piscine olympique. Alors, c'est intéressant parce que Montpellier reçoit. Et ça sera donc aujourd'hui, samedi, à 20h30, donc un petit peu après cette émission. Et ça sera à la piscine d'Antigone. Et il va recevoir son dauphin, qui est Nice. Donc, les grands clubs actuellement, c'est Montpellier, Nice et Marseille. Enfin, on va parler foot, mais féminin. Alors, en foot féminin, les féminines du MHSC sont troisièmes de notre championnat de l'élite et vont recevoir leur homologue et voisine de Rodez. Alors, si vous voulez aller voir, et ben c'est dimanche à 14h30 au stade de Jules Rimet de Sussargues. Cette émission est terminée. Je vous remercie donc de l'avoir écouté. À samedi prochain, si vous le voulez bien.
Au revoir.
L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.